Alors, ce qu'on entend là, c'est le bruit d'une grande porte coulissante qui s'ouvre dans le mur et qui permet à une Jeep israélienne de se garer de l'autre côté. Puis on vient de voir passer un véhicule blindé israélien de la police.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, rendez-vous en Cisjordanie avec la série de carnets de route que vous propose Anne Brunswick intitulée « Palestine, par-delà les murs ».
Voilà, là on est à Calandia au checkpoint. Alors là, vendredi midi, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est quand même le jour de congé ici. On entend l'appel à la prière. On passe à travers un tourniquet, une personne après l'autre. Et après, il faut faire la queue devant un autre guichet où il y a un autre tourniquet. Il y a plusieurs guichets où on peut passer. Alors, ici, en fait, il y a une dizaine de couloirs pour faire passer les gens, mais ils ne sont pas tous ouverts. Là, je regarde, il y a cinq guichets. Alors, des inscriptions en hébreu, en arabe et en anglais. Keep the terminal clean. Emergency exit. Gardez le terminal, la gare propre. Tu es déjà passé par ici, Henriette ?
Oui.
Alors là, il y a un feu vert qui passe. Mais on peut passer seulement un par un seulement ici. Mais pour quelle radio je travaille ?
Non, ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je dis, elle fait un reportage, elle veut la passer à la radio. Elle m'a dit, mais elles ne savent pas qu'est-ce qui se passe ici. Non. J'ai dit non, pas tous.
On ne se rend pas compte. Tant qu'on n'est pas venu ici, ouais. On ne se rend pas compte. Ouais.
Checkpoint de Calandia. On est sur la route entre Ramallah et Jérusalem, un des points de passage les plus importants, les plus imposants de ce fameux mur construit par les Israéliens à partir de 2002. Clôture de sécurité pour les uns, mur de la honte, de l'apartheid pour les autres. Le mur, son tracé en tout cas, parce qu'il n'est pas encore terminé, s'étire sur plus de 700 kilomètres, coupant parfois en deux les villages et les champs d'oliviers, isolant parfois des communautés entières, étouffant l'économie et rendant pour des milliers de personnes l'accès aux soins, aux écoles et aux lieux saints extrêmement difficile. Ce mur de béton, de barbelés, de tranchées et de portiques électroniques, un mur déclaré illégal par la Cour internationale de justice en 2004, ce mur qui grince, vous l'avez entendu, à ces checkpoints, vous l'avez passé, Anne Brunswick, vous l'avez passé avec une femme qu'on a entendue également, c'est une chrétienne palestinienne qui s'appelle Henriette Khoury.
Oui, Henriette Khoury. C'est une femme d'ailleurs chez qui j'ai logé. Et donc, on se connaît bien. Voilà pourquoi je la tutoie. Elle a 57 ans et elle est née à Ramallah. Mais c'est vrai qu'elle connaît bien Jérusalem parce qu'elle y a travaillé pendant longtemps. Et, ce mur, c'est pour elle quelque chose qui est c'est aussi un mur dans sa vie parce qu'elle avait la moitié de ses amis à Jérusalem. Et depuis que ce mur existe, elle est coupée de toute cette partie de sa vie, de ses amis.
Parce qu'il faut une permission pour passer.
Oh là là, oui, il faut une permission qui est très difficile à obtenir. Alors, une femme qui est relativement âgée et qui est en plus chrétienne peut l'obtenir. Là, elle l'a obtenue un peu exceptionnellement parce que la demande est passée par le curé de la paroisse de Ramallah. Et donc, à l'occasion des fêtes, les autorités israéliennes donnent uniquement aux chrétiens des permissions. Sinon, c'est très très difficile à obtenir. Et en tout cas, les hommes jusqu'à 45 ans n'ont aucune chance d'en obtenir. Donc, c'est vraiment c'est un mur qui est fermé. Hein, les passages sont exceptionnels.
Elle-même a pu passer combien de fois entre Ramallah et Jérusalem ?
Elle m'a dit qu'elle est passée, elle a eu une permission juste pour une journée il y a quelques mois, mais sinon ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas eu de permission pour y passer. Là c'est une permission un peu spéciale, celle de, pour un mois, valable un mois, qui est donnée aux chrétiens. Mais en fait au moment où les événements de Gaza ont commencé, tous les chrétiens avaient peur que ces permissions soient immédiatement supprimées, puisque quand il y a des situations comme ça de tension, comme c'est des permissions qui sont données par les autorités militaires israéliennes, elles peuvent être suspendues d'un moment à l'autre. Mmh.
On va retrouver en seconde partie d'émission Antoine Basbousse qui va vous rejoindre en duplex de Paris, les politologues, les spécialistes du monde arabe, les fondateurs et directeurs de l'Observatoire des pays arabes. On verra avec lui, on parlera du contexte, du conflit aussi et de l'opération israélienne à Gaza. Mais là, on va retourner avec vous, Anne Brunswick, avec Henriette Roury. On va vous retrouver toujours dans ce checkpoint de Kalandia.
Ici, c'est truffé de dispositifs de sécurité, de caméras de surveillance et de grillages partout. Wahad, wahad, un par un.
Imagine peut-être que c'est pour la première fois, ils ne savent pas comment rentrer.
Ah oui ? Ils viennent pas souvent ?
Non, c'est pour ça.
Parce qu'ils viennent d'avoir des permissions, tu crois ?
Voilà, voilà, ah, c'est ça.
C'est la première fois qu'ils ont une permission pour aller de l'autre côté. Et ta permission est valable jusqu'à quand, sur le papier ?
Le 21 janvier. Mais est-ce que j'aurai le courage d'y retourner ou non ? Je ne sais pas, on verra.
Alors, après, il y a un panneau qui indique « Please insert your documents in the slots and wait for further instructions. » S'il vous plaît, insérez vos documents dans la fente et attendez les instructions. Qu'est-ce que c'est que cette permission exactement que tu as obtenue, aussi que d'autres chrétiens ont obtenu dans la période des fêtes?
Aussi ça, c'est une discrimination. De nous donner des permis seulement pour les chrétiens à affranchir les barrages afin d'aller traverser Jérusalem pour aller à Bethléem, si c'est possible aussi, parce qu'ils ont trouvé maintenant une autre route. Mais pour aller à Jérusalem, en Israël, pour visiter peut-être la famille, nous faire sortir un petit peu pour respirer, pas plus que ça.
C'est les autorités militaires israéliennes qui donnent ce permis ?
Oui, bien sûr.
Là, ils font passer deux personnes à la fois. Le passeport à la page du visa. Il n'a pas fait d'histoire pour le permis ?
Non. Mais elle a regardé et quelque chose est apparu sur l'ordinateur et elle m'a dit ok.
Il a vérifié que tu as un vrai permis.
Ouais. Ouais.
Voilà. Et là maintenant on sort du checkpoint. Oui.
Ils sont en paix. Et maintenant, je ne suis pas terroriste.
Ah. Qu'est-ce qu'on entend là ? On entend la mosquée, là.
Hein ? La mosquée, oui.
C'est le prêche du vendredi.
C'est la prière de vendredi.
Ouais.
Vous savez, maintenant, il y a plusieurs checkpoints, même pour visiter les villes des territoires. Mm-hmm. On ne peut pas aller à Naplouse. C'est encore, il y a un checkpoint comme ça. Il faut laisser la voiture et traverser à pied.
Hawara.
Hawara, ça c'est Hawara. Après, aux frontières de Jenin à Jenin, il y a un autre checkpoint comme ici à Colandia. Et puis, il y en a à l'ouest, sur la route de Tel Aviv.
Puis il y a celui de Bethléem. Hein.
Et celui de Bethléem, encore. Alors, au lieu de prendre 20 minutes, un quart d'heure pour arriver à Jérusalem, ça nous coûte 2 heures, 3 heures,
parfois. Ouais. Parfois. Et parfois, on n'arrive pas du tout.
Voilà.
J'ai vu souvent que le checkpoint était complètement fermé, hein, quand un couvre-feu qui peut durer plusieurs journées. Ouais. Oui, là, on est entièrement entouré de murs, de barbelés. On a des tours de miradors. Il y en a une là, une là-bas. Je ne sais pas combien il y a de ces tours. En fait, c'est un même modèle qui a été fabriqué industriellement, là, ce tour de mirador. Et ils ont mis partout en Palestine. Chaque élément du mur, c'est un bloc différent qui fait 7 ou 8 mètres de haut avec un trou en haut. Et avec ce trou, la grue peut attraper le haut, la plaque en haut. Elle la sort du camion, elle la soulève, elle la met directement dans la terre. On n'a pas besoin de creuser des fondations sur ce mur. On pose les éléments les uns à côté des autres et après on met un peu de sable et c'est tout.
Oui.
Mais on n'a pas besoin de creuser pour construire ce mur. Donc ça va normalement très, très vite. Non, on va pas te laisser toute seule dans un endroit aussi horrible. Hein. C'est horrible,
c'est
là, ici.
Comme si c'est abandonné.
Bah, comment c'était ici avant?
Sans mieux, Yanni. Presque une vie normale, Yanni. La circulation, les gens.
C'est ça, c'était la route principale de Ramallah à Jérusalem.
Mais c'est coupé en deux maintenant.
Oui.
Côté pour les territoires et côté pour l'Israël, soi-disant.
Dans les haut-parleurs, on entend aussi de temps en temps l'armée israélienne. Ils sont plus près. Et au loin, la mosquée, le haut-parleur de la mosquée. Là-bas, c'est la mosquée de Qalandia. Hein?
Oui.
Qalandia. Donc là de l'autre côté, à Qalandia, il y a beaucoup de gens qui habitaient en vieille ville ou qui habitaient à Jérusalem-Est.
Dans vieille ville à Jérusalem-Est. Et comme la ville est trop petite, il n'y a pas la place pour tout le monde. Leurs enfants qui sont mariés, avoir des enfants, alors il n'y a pas la place pour eux. Et c'était interdit de construire des maisons à Jérusalem-Est, partie Est, même à Beth Hanina, hors de Jérusalem, le bon lieu de Jérusalem, ou Shofat. Alors, elles étaient obligées de venir tout près de Ramallah. Elles ont acheté des terrains et comme ça, elles ont construit des maisons pour leur petite famille. Et comme ça, ça a été grandi, développé. Maintenant, il y a 30 ans, comme ça.
Et là, juste en face de nous, là, derrière le checkpoint, ce qu'on voit, c'est une colonie juive.
Une colonie juive.
Donc eux, ils ont une route spéciale pour aller à leur colonie. Ils passent jamais par ici. Hein.
Bien sûr.
Alors, ce qu'on entend là, c'est le bruit d'une grande porte coulissante qui s'ouvre dans le mur et qui permet à une jeep israélienne de se garer de l'autre côté. Puis on vient de voir passer un véhicule blindé israélien de la police. Mais jusqu'à la première intifada, il y avait beaucoup d'Israéliens qui venaient aussi à Ramallah.
Ah oui, c'était ouvert. Même ils préféreraient de venir à Ramallah pour passer leur temps dans les restaurants, manger la cuisine arabe palestinienne, le hummus, le falafel,
le kebab,
l'aubergine, tabal, Et puis, c'était moins cher qu'Israël parce que tous les fruits et les légumes s'étaient plantés dans les jardins des Palestiniens, récoltés et vendus dans le souk. Alors, c'est pour ça qu'il y avait plus de goût, si vous voulez.
C'est moins chimique et moins cher.
Voilà, voilà. Alors, ils avaient l'intérêt d'acheter tous leurs besoins, soit de la viande, les légumes, tout. Et nous, par échange, on est allé là-bas pour voir la mer, manger du poisson, parce qu'on n'a pas beaucoup de poissons chez nous. Juste quand Rabin était assassiné, après ça, ils ont fermé tout. Je pense à cette époque. Ça a été fermé complètement. Ça, c'était en 96, en février, fin février, début mars. Et comme ça, j'ai quitté mon travail après ça.
Au consulat ?
Au consulat, parce que j'étais enfermée à Ramallah, je ne pouvais pas aller à Jérusalem. Il fallait attendre un permis et tout ça. Et comme ça, j'ai démissionné.
Henriette Rouhi, donc si j'ai bien compris, Anne Brunswick, elle a perdu son travail à cause, c'était pas encore le mur, mais c'était en tout cas les checkpoints qui rendaient les déplacements impossibles entre Ramallah et Jérusalem. Ils sont nombreux, les Palestiniens, dans son cas.
Oui, c'est une situation très banale. Il faut dire que Ramallah était une petite ville satellite de Jérusalem et la plupart des gens qui habitaient à Ramallah ou la ville voisine qui est Al-Biré travaillaient et allaient quotidiennement à Jérusalem. Et puis, c'est vrai, comme elle dit, à partir déjà du milieu des années 90, 96, les checkpoints se sont multipliés et les difficultés pour aller et venir sont devenues de plus en plus insurmontables. Et donc, les gens qui avaient un travail à Ramallah ont quitté Jérusalem pour aller s'installer à Ramallah. Et les deux milieux se sont trouvés séparés. Mais c'est une aberration dans la mesure où tout le monde a de la famille, a des liens, enfin allait tout à fait quotidiennement là-bas, sans parler d'aller à la prière. Il y avait quand même beaucoup de gens, notamment le vendredi, qui allaient systématiquement prier à la mosquée.
Oui. Henriette, vous l'avez retrouvée chez elle, cette fois, à Ramallah, dans sa maison. Elle ressemble à quoi, sa maison ?
Elle vit dans un appartement au rez-de-chaussée, qui est un appartement assez moderne. Ça fait partie des nombreuses maisons qu'on a construites dans la suite des accords d'Oslo, un moment où la bourgeoisie palestinienne pensait qu'il y avait de l'avenir du côté de Ramallah, et on a construit beaucoup d'immeubles. Donc le sien est un appartement grand et assez confortable, avec des orangers, des oranges dans le jardin. Là, c'est très agréable.
Et dans sa maison, donc, elle va vous parler de son enfance et, comme vous étiez à cette période à Ramallah, du Noël de son enfance.
Je suis née à Ramallah. Et le lieu où j'ai habité, la maison de ma naissance, c'était une très 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 belle maison. Une ancienne maison entourée d'un grand jardin avec des grands arbres de sapin. Alors pour moi, Noël, c'était la famille, qu'on était unis tous ensemble, la décoration que maman a faite pour ses enfants. On était 5 enfants à la maison. Et puis, combien de jours elle a commencé à préparer afin de bouffer, pour manger à Noël des bonnes choses et des gâteaux aussi. Et voilà, après,
elle est morte
depuis 69, moi j'avais 18 ans. Ça m'a pris 18 ans encore afin de recouvrir de son absence. Que j'ai recommencé à faire le sapin, décorer le sapin pour mes petites sœurs.
Qu'est-ce qu'elle préparait pour Noël ?
Elle a préparé la côte de mouton, c'était farci. La côte, ça veut dire le dos tout, qui était ouvert à l'intérieur. Et puis elle a fait sa farci avec du riz, avec de la viande aussi. Et puis le filet. Et avec des fruits, avec des patates, des salades. Mais la côte qui lui a pris encore beaucoup de temps à préparer. Parce que c'était dans une seule pièce, pas coupée. Et tout mis au four aussi, qui était très bon.
Je sais que toi, tu fais souvent la cuisine, tu aimes bien faire la cuisine. Oui. C'est quelque chose que tu tiens de ta mère, hein?
Exact, exact. J'ai appris à faire la cuisine après maman. Après qu'elle a décédé, toujours j'ai cherché le goût en ajoutant les épices, tout, jusqu'à ce que je suis arrivée au même goût que ma mère a fait. Ouais.
Est-ce que Noël, c'était quelque chose qui était seulement pour les chrétiens ou c'était quelque chose qu'on partageait aussi avec les voisins musulmans?
Non, c'était toujours, on a partagé ça avec nos voisins musulmans. Même eux-mêmes aussi, ils ont préparé un sapin. C'était la jalousie entre les enfants. Pourquoi les voisins ont un sapin, pas nous? Alors leurs parents l'ont fait un sapin. Mais même avec toutes les fêtes, toutes sortes de fêtes, on a partagé ça, nous tous ensemble. Et même nous, on a fêté avec eux Ramadan. On a attendu Ramadan comme eux. C'était vraiment... La fête, c'est quelque chose de joyeux pour les enfants, vraiment pour toutes les familles.
Et ça veut dire que pendant Ramadan, les petits-enfants chrétiens aussi faisaient un peu Ramadan ou un petit peu?
Oui. Vous savez, les enfants, quand ils réagissent très normal avec leur vie, Annie, sans penser à quelque chose. Ils voulaient être tous pareils, c'est tout. Et leurs parents leur permis de faire ça parce que c'était normal entre les parents aussi. Et quand ils ont réuni dans une maison, les voisins, ils n'ont jamais parlé de la région. Jamais. J'ai jamais entendu ça parler. Non.
À l'école, vous étiez mélangée?
Bien sûr, on était mélangés. Moi, j'étais à l'école de sœurs de Saint-Joseph. Alors, chaque cours, chaque sœur, quand elle a rentré, soit en anglais, soit en français, soit en arabe, toujours on a prié Sainte-Marie, notre Père. Alors, il y avait des musulmans dans notre classe qui ont prié avec nous aussi.
Ça a beaucoup changé de ce point de vue-là, maintenant, ici, l'atmosphère à Ramallah?
Oui, parce qu'on est maintenant qu'au mois de chrétiens. Dans les semaines normales, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église aussi.
Donc, tu avais quel âge là, au moment de la guerre de 67, là, la guerre des six jours?
16 ans, j'avais 16 ans.
Et tu as un souvenir là, précis des événements ici? Comment ça s'est passé?
Oui, parce que j'étais avec mon binoculos, comment on appelle ça en français? On regarde de loin.
Ah, mes jumelles, hein? Une paire de jumelles, oui.
Alors j'ai regardé parce qu'on pouvait voir la côte de notre maison. Et puis, moi j'ai attendu les avions russes pour venir nous sauver. Toujours j'ai regardé le ciel. Et j'ai toujours la radio était à côté de moi, et écouté les nouvelles. Et moi, j'étais la première de voir les chars israéliens qui sont rentrés à Ramallah. Et comme j'étais tout le temps dehors, regardant qu'est-ce qui se passe, j'ai appelé papa. Je lui ai dit, viens regarder les chars. Voilà, ils sont arrivés, ils sont là. Il m'a dit, non. J'ai dit, oui. On a appelé les voisins, on a regardé, il nous a dit, alors on reste à l'intérieur. Et les premiers soldats israéliens que j'ai vus, ils étaient blondes avec des yeux clairs. Quelqu'un qui a demandé à mon père, pourquoi vous avez des enfants avec la peau claire, des yeux verts et bleus? Vous n'êtes pas d'ici? Alors papa lui a dit, si, on est palestinien, je viens de Ramallah. Mais notre famille, c'est une mélange de couleurs, c'est ça. Mais moi, j'ai rien compris pourquoi ils étaient comme ça. J'avais peur, moi, des Israéliens, avec tout ce que j'ai entendu de ma grand-mère, comment ils ont pris la fuite pendant la guerre de 48 et tout ça. Et moi, j'avais peur de le voir, de parler avec eux, tout ça. Mais je les ai...
C'est ta grand-mère qui t'a raconté les événements de 48, la Nakba. Oui. Et ta mère aussi, oui.
Et ma mère, bien sûr, parce qu'elles ont pris la fuite de Jérusalem jusqu'à Jéricho, pas plus. Alors, elles ont laissé tout à la maison. Ils ont pris seulement quelques vêtements, c'est tout. Alors, ils ont laissé tout. Et après la guerre de 67, ma mère avait envie de voir la maison, tout ce qu'elle a laissé, ce sont ses souvenirs après son mariage et tout. Alors, on est allé, on était très petites, à pied. On est arrivé parce qu'ils habitaient tout près de Katamon. Alors, on est arrivé à la maison, on a frappé à la porte, une dame qui était sortie, alors maman s'excusait, elle a dit bonjour, on a habité ici, est-ce que vous nous permettez de rentrer voir la maison, tout ça? Elle a dit non. Alors, elle n'a pas voulu.
Les Israéliens, là, à cette époque-là, ils avaient peur que les Palestiniens viennent revendiquer leurs anciennes maisons, réclamer des droits?
Il paraissait que c'était comme ça, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu ouvrir la porte pour nous laisser rentrer à la maison. J'en suis sûre que ça. Mais maman n'était pas une genre d'une personne agressive et tout ça. Elle a essayé de parler avec elle, lui convaincre tout ça, mais elle n'a pas réussi. Moi, je me rappelle encore, papa avait des amis juifs. On ne les a pas appelés israéliens. On a appelé les gens juifs, chrétiens ou...
Parce que c'était des gens que vous aviez connus avant 48, donc avant qu'il y ait l'État d'Israël, à une époque où il y avait encore... Enfin, il y avait des échanges entre les communautés.
Hein. Il y avait des liens étroits aussi, ce qui était bien. Mais maintenant, avec la politique, elle nous a coupés en tranches et ils ont laissé les gens trahir les autres aussi avec tout ce qui se passe. Et ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, surtout pour les enfants. On est les enfants de nos grands-parents aériens et surtout les gens qui ont vu leurs parents eux-mêmes. Leurs enfants, les enfants de leurs enfants encore qui souffrent de la même situation. Ça, je trouve, c'est dur pour eux. Vraiment, c'est dur. De répéter tout le temps la même chose dans toute leur vie, ça, c'est vraiment très dur.
C'est pour ça qu'on est fatigué ici. Hein?
Ah oui.
Yalabina, c'est signé Amira Sakati sur la première à 14h35. On est en direct et en duplex de Paris avec Antoine Basbouze. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe, de l'islam, du terrorisme islamiste. Vous êtes fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous avez entendu comme nous ce témoignage, ce récit d'Henriette. Une réaction peut-être ?
Écoutez, c'est très touchant d'entendre des gens occupés, malmenés, qui sont malheureux et qui voient... qui se voient privés de leur terre, de leur pays, alors qu'on pourrait imaginer deux États qui soient capables de vivre en partage des territoires et probablement en paix.
Il y a la fatigue, elle termine là-dessus, elle dit « je suis fatiguée ». On a l'impression que c'est aussi par rapport à un conflit qui semble ne pas avoir de fin.
D'ores et déjà, ce conflit dure depuis officiellement 1948, sans oublier les dizaines, quelques dizaines d'années avant pour installer les premières colonies et chasser les Palestiniens pour qu'Israël puisse naître sur une partie de la Palestine. Mmh. Donc c'est épuisant, c'est long et on ne voit pas à l'heure actuelle poindre la lueur au bout d'un tunnel qui est déjà très long.
On a beaucoup parlé dans les médias des derniers événements, des derniers éléments de ce conflit. C'est bien évidemment l'opération israélienne à Gaza, une opération très médiatisée, une opération qui a également suscité énormément d'émotions sur place, bien évidemment, dans les pays arabes, dans le monde entier en fait. Et aussi ici à Paris ou en Suisse romande avec, en tout cas chez nous, des courriers d'électeurs ou d'auditeurs, des prises de position de représentants politiques ou de toutes sortes d'informations, soit condamnant, soit justifiant Israël et son intervention. Vous, Antoine Basbous, depuis le début de cette opération, vous dites quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous dites notamment que, au fond, de nombreux pays arabes sont très contents qu'Israël ait fait le sale boulot en essayant de se débarrasser du Hamas à Gaza.
D'abord, il ne faut pas oublier le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que les Palestiniens n'ont pas d'espace vital, n'ont pas d'État, alors que les résolutions du Conseil de sécurité, que les pays arabes ont officialisé cette demande de paix en disant « rendez les territoires, vous aurez la paix de la Ligue arabe tout entière ». Donc c'est le cœur du problème. Donc la création de deux États côte à côte, un État palestinien viable. Et pour cela, il faut arrêter la colonisation. Ça, c'est le cœur du problème. Mais se greffent à cela d'autres problèmes qui viennent de quoi ? Qui viennent du fait que les États arabes sont fatigués, sont épuisés de se battre pour la Palestine sans rien donner de concret. Les États arabes, à commencer par l'Égypte le plus important, le Caire a signé il y a 30 ans un accord de paix avec Israël, l'accord de Camp David, et s'est retiré un peu du conflit, suivi en cela par la Jordanie, puis par l'accord entre l'autorité palestinienne, l'OLP et l'État d'Israël. Mais il reste des gens sur le carreau et cet accord de paix israélo-palestinien ne s'est jamais concrétisé. Alors, Arafat, à la fin de sa vie, quand il était prisonnier d'Al-Mukata à Ramallah, avait senti cette solitude, cet isolement. Aucun chef d'État ne l'appelait plus, n'intervenait auprès du président américain pour soulager sa peine. Et même quand Arafat appelait les chefs d'État arabes, ils étaient toujours absents et ne rendaient pas l'appel. Ça veut dire que même l'aura d'Arafat était tombé en panne à la fin de sa vie et que les Arabes sont fatigués. Sur cela vient se greffer deux autres facteurs. Le facteur iranien, l'Iran cherchant à instaurer un croissant chiite de la Caspienne à la Méditerranée, avec la chute de Saddam Hussein en Irak, eh bien c'est un État chiite qui s'est installé, avec en Syrie la minorité alaouite qui est également issue du chiisme et le Hezbollah au Liban. En plus de tout ce croissant chiite, s'est ajouté le Hamas palestinien qui est sunnite, mais qui a fait partie de cette alliance. Et voilà l'Iran qui veut jouer dans la cour des grands, qui se prend pour l'héritière de l'Union soviétique, qui veut négocier avec Washington non seulement pour l'Irak, pour le Golfe, mais également pour l'avenir d'Israël, pour la paix en Palestine, pour le Liban, pour la Syrie. L'Iran se prend pour une très grande puissance, a des ambitions nucléaires, balistique, dans le spatial également. Et c'est ainsi que l'Iran a instrumentalisé le Hamas dans cette dernière bataille de Gaza, comme il avait instrumentalisé le Hezbollah en 2006 au Liban. Moi, je voudrais, à côté du cœur du problème, qui est la colonisation, l'absence d'un État palestinien viable aux côtés d'Israël, montrer que cette greffe a dangereusement pris. Mmh. Et cette greffe iranienne voulait chambarder le paysage politique arabe. Première victime désignée, c'était l'Égypte. Les dirigeants iraniens, dès le premier jour de l'attaque de Gaza, ont désigné l'Égypte comme coupable. Le lendemain, c'est le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a invité explicitement les Égyptiens à descendre par millions dans les rues et à défoncer le passage de Rafah et à inviter l'armée égyptienne à mener un coup d'État contre le régime de Moubarak comme elle l'avait fait contre le roi Farouk en 1952. Donc l'Égypte était désignée pour abattre son régime pro-occidental qui a signé un traité de paix avec Israël. Tout cela pour changer de régime, pour agrandir la clientèle, les alliances de l'Iran dans la région. Le Hamas y a cru et il s'est trompé. Aujourd'hui, le Hamas se rend compte que le passage par le poumon égyptien de Gaza est un passage obligatoire et obligé.
Pourquoi est-ce que cette greffe a prise, selon vous ? Parce que, au fond, l'Iran est chiite, tous ces pays sont sunnites, l'Iran n'est pas arabe, l'Iran n'est pas arabophone, le reste de ces pays est arabophone, c'est un pays étranger, l'Iran, de la région, véritablement, culturellement, religieusement.
Oui, mais l'Iran a réussi sa révolution, ou bien une révolution, d'abattre un régime autoritaire qui était celui de la monarchie du Shah et a voulu exporter sa révolution. Il s'est appuyé d'abord sur les chiites, mais comme le Hamas palestinien est une branche des frères musulmans égyptiens, eh bien il a été ostracisé par l'Égypte et par d'autres pays qui ne voulaient pas voir la victoire des frères musulmans à Gaza, de peur que cette victoire ne soit revendiqué par leur propre opposition, les frères musulmans en Égypte par exemple, en disant « ça a marché avec nos frères à Gaza, il faut que ça marche chez nous, donc il faut que nous prenions le pouvoir ». Donc la rébellion du Hamas à Gaza a inquiété plusieurs régimes arabes. Et d'ailleurs, le Hamas a défié ouvertement l'Égypte. Rappelez-vous en 2007, en juin 2007, quand le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, eh bien, des généraux du Fatah, de l'autorité palestinienne, se sont réfugiés dans la représentation diplomatique d'Égypte à Gaza. Le Hamas n'a pas respecté les lieux. Le Hamas est rentré dans ses locaux, il a extirpé les officiers de l'autorité palestinienne, il les a exécutés. Donc, vous voyez, il y a eu un cumul de défiances, d'erreurs et de défis lancés à l'Égypte. L'Égypte ne pouvait pas supporter que tout en étant le poumon de Gaza, qu'il soit maltraité par le Hamas de Gaza.
D'où le fait, dites-vous, et je reviens à ma première question, que dans certaines chancelleries arabes, en tout cas, on se félicite, pas officiellement, mais on se réjouit quand même de la... Alors, on ne sait pas si c'est encore une défaite ou pas, mais en tout cas de l'intervention israélienne.
C'est vrai, plusieurs États arabes souhaitaient la défaite du Hamas, tout simplement parce que le Hamas s'agite trop, parce que le Hamas ne calcule pas les coûts post-opération et que parce que le Hamas a été instrumentalisé directement depuis Téhéran, depuis Damas, où siège sa direction politique, qui est financée par l'Iran. Donc, tout succès du Hamas aurait été traduit comme une défaite des Arabes. La même chose avec le Hezbollah en 2006. Rappelez-vous, le succès du Hezbollah face à l'échec de l'armée israélienne de le maîtriser en 2006 s'est traduit par un quasi-renversement du pouvoir au Liban. Le Hezbollah aujourd'hui tient la dragée haute à l'État libanais. Il a sa propre armée qui l'a consolidée. Il est maintenant rentré au gouvernement en force. Il bloque tout. Il est devenu la pièce maîtresse du dispositif politique, sécuritaire, militaire, diplomatique du Liban. Le Hamas aurait pu être ceci si jamais il avait réussi son coup. D'ailleurs, il n'est pas totalement avorté puisque la crédibilité du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en a pris un coup. Et le Hamas avait intégré dans le lancement de son opération le fait que le mandat de Mahmoud Abbas se terminait le 8 janvier. Et donc, il voulait devenir l'incarnation de la Palestine, le nouveau porte-parole de la Palestine et des Palestiniens. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté là, puisque le chef du Hamas, basé à Damas, est allé à Téhéran et a décrété qu'il avait l'intention de créer un nouvel OLP. Vous vous rendez compte, si pour instaurer l'image de l'OLP, les Palestiniens ont mis une quarantaine d'années, maintenant qu'il y en aura deux OLP, ça va être la guéguerre, ça va être une usure des énergies palestiniennes, en oubliant qu'il fallait qu'ils unissent leurs rangs pour réclamer un État sur une partie de la Palestine. Donc l'Iran joue un rôle déstabilisateur, instrumentalise la carte palestinienne, se joue du Hamas, mais tout ça, ça crée de l'émotion. Et en voyant ces bombardements violents, sauvages à Gaza, le peuple arabe se soulève et l'émotion se dit « Ah, le Hamas est soutenu par la Syrie, par le Hezbollah, par l'Iran », même si on ne voit pas exactement comment ce soutien s'est-il exprimé. Personne n'a bougé le petit doigt pendant la guerre. Simplement, il haranguait le Hamas, le soutenait à bout de versets coraniques en disant que la justice va vaincre, mais rien de concret, aucune action concrète, seulement de la parole. Donc les Palestiniens de Gaza ont payé pour la gloire de l'Iran, de la Syrie, du Hezbollah, et pour approfondir la haine dans une bataille désespérée qui était destinée à renverser le régime égyptien, entre autres.
Votre analyse, Antoine Basbouz, je rappelle, politologue, spécialiste du monde arabe, de l'islam et du terrorisme islamique, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On va voir avec vous dans quelques minutes ce que nous réserve peut-être la suite de ce casse-tête, parce que c'est extrêmement difficile à comprendre ici, j'imagine sur place aussi. On en parle après Rimbana.
Infotrafic RSR.
Et après aussi cette info route, parce qu'on nous signale que dans l'axe du Grand Saint-Bernard, eh bien cet axe est à nouveau ouvert aux trains routiers et aux semi-remorques. Le col des Montets à la frontière franco-valaisanne, lui, est fermé jusqu'à nouvel avis. Cet axe est menacé par les avalanches.
Radio Suisse remonte la première, un dromadaire sur l'épaule.
Ja, Jamal,
Voilà, c'était Ya Jamal Rimbana sur la première.
Infotrafic RSR.
Voilà, on nous signale encore que sur l'autoroute Martigny-Lausanne, un accident perturbe la circulation entre les jonctions de Vevey et de Chèbre en direction de Lausanne. Et retour entre Lausanne et Paris avec vous, Antoine Basbous, en direct de la capitale française. Vous êtes fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Alors, on a compris qu'avec vous, il y avait une division, des divisions énormes dans ce monde arabe, qu'il y avait l'Iran qui n'est pas arabe, qui est chiite, qui joue, essayait de placer ses billes, on va dire, en instrumentalisant notamment le Hamas. Est-ce que vous pensez que, au fond, cette complexité, ce flou, fait le jeu des éléments les plus durs. Et là, je pense notamment à l'extrême droite israélienne qui, vraisemblablement, devrait remporter pas mal de voix aujourd'hui en Israël. Est-ce que, au fond, cette situation où plus personne ne comprend grand-chose à quoi que ce soit, cette émotion, cette violence aussi très forte, elle favorise forcément les éléments les plus extrémistes ?
Forcément, les radicaux se soutiennent mutuellement. C'est-à-dire qu'après cette affaire de Gaza, si le Hamas s'était tenu sans lancer de missiles, il aurait peut-être favorisé la coalition sortante. Mais lancer des missiles, c'est favoriser le Likoud, c'est favoriser le parti de Lieberman en disant « c'était pas assez, il faut voter pour la sécurité, il faut voter pour les durs, les plus durs ». Et donc la coalition sortante n'a pas été capable, elle a encore échoué. Donc voilà, l'Iran n'aime pas des gens avec qui il pourra traiter parce qu'une révolution a besoin d'un ennemi. Et rappelez-vous, Ahmadinejad n'a pas cessé de dire, maintenant ça fait 3 semaines qu'il ne l'a pas dit, mais avant c'était toutes les semaines, qu'il faut éliminer Israël de la carte, ainsi de suite. Donc ce discours-là est propice pour les radicaux s'entretiennent mutuellement et s'entraident à garder le pouvoir.
Mmh. Des sortes d'alliances objectives, alors que dans le discours, les gens se vouent à la mort. Enfin, c'est le cas en tout cas d'Israël et de l'Iran.
Je ne suis pas sûr que l'Iran cherche vraiment à la disparition d'Israël. Mais bon, les Israéliens peuvent dire on ne peut pas ne pas croire un dirigeant qui répète ça toutes les 2 semaines. Mmh. En revanche, l'Iran veut surtout voler l'opinion publique arabe aux dirigeants et au régime arabe établi. Et ce faisant, les dirigeants arabes qui sont très liés à l'Occident, qui ont signé un traité de paix ou qui ont installé des bureaux commerciaux israéliens dans leur capitale, eh bien, sont en porte-à-faux, en contradiction avec leur opinion publique. Et apparaît ainsi l'ayatollah Khamenei et le président Ahmadinejad comme étant des champions de la cause arabe. Ainsi, ils volent un peu l'opinion publique arabe au régime et aux dirigeants arabes. Mais en revanche, avec ce discours-là, ils sont, les Iraniens, intimident leurs voisins et leur disent « Écoutez, nous, on n'a pas peur d'Israël, on défie Israël, même s'ils ne font rien, en réalité. Et puis, on est devenu le partenaire des grands, c'est-à-dire des grandes puissances, les 5 plus 1 qui se réunissent pour traiter du nucléaire iranien, et maintenant de Barack Obama, nouveau président des États-Unis. »
Vous-même, Antoine Basbous, vous êtes né au Liban, un pays qui lui aussi a servi et continue à servir de champ de bataille, ou en tout cas de champ de conflit pour toute la région, entre ces grandes puissances, entre l'Iran, entre Israël, entre l'Arabie Saoudite, entre la Turquie aussi. Est-ce que cette histoire de ce qui s'est passé à Gaza, de ce qui se passe en Palestine, cette instrumentalisation, elle vous touche aussi parce que vous êtes Libanais ?
Écoutez, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie en France, même tout en gardant à présent à l'esprit mes racines libanaises. Moi, ce qui se passe au Liban me touche évidemment. Et quand je vois le Hezbollah, je lis le livre du numéro 2 du Hezbollah, le Cheikh Naïm Qassem, mm-hmm. et je vous invite à le lire. Dommage que ce livre ne soit pas traduit dans les langues européennes. Pourquoi ? Parce qu'il raconte exactement l'histoire du Hezbollah, la naissance du Hezbollah, et il dit, il cite les 8 personnes qui étaient présentes quand l'ayatollah Khomeini avait signé un décret religieux créant le Hezbollah à Téhéran en 1983. Quand on voit l'origine du parti, ses objectifs, son financement, eh bien on comprend tout de suite ce que ça veut dire le Hezbollah, ce que sont ses missions, son mode de commandement et son rattachement à Wali al-Faqih, c'est-à-dire au guide suprême qui est installé en Iran.
Mais en même temps, Antoine Basbous, le Hezbollah, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens du Hezbollah au sud Liban. Ils ont aussi des hôpitaux. C'est les seuls qui ont occupé le terrain social. La même chose pour le Hamas à Gaza. L'Iran, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une révolution qui, d'une certaine manière, a réussi. Et ce pays prétend aujourd'hui se passer notamment de l'Occident. Ce sont quand même des succès, non ?
Écoutez, la partie sociale...
Ils ont occupé un terrain que les gouvernements traditionnels n'occupaient plus depuis longtemps.
Écoutez, si la partie socio-humanitaire doit masquer la partie stratégique, ça peut passer pour beaucoup. Mais moi, ça ne m'empêche pas de voir ce qu'il y a au-delà du dispensaire de l'école coranique qui enseigne l'iranien et qui introduit un islam à l'iranienne et qui tente de convertir les sunnites au chiisme. Donc il y a deux niveaux, il y a ceux qui acceptent ce qui est visible en première ligne et ceux qui cherchent à voir un peu plus loin. Alors quant au succès de la révolution iranienne, tout dépend des critères. Si le critère est de pouvoir revendiquer la bombe dans quelques mois, peut-être dans quelques années, eh bien, au détriment du bien-être du peuple, les Iraniens aujourd'hui sont un peuple assez malheureux parce qu'ils sont privés du bien-être quotidien, parce qu'ils sont privés de leur liberté. Et eh bien, je ne trouve pas que c'est une bonne référence. En revanche, si... Pour satisfaire la fierté nationale, prétendre qu'on a lancé un engin spatial, qu'on est en train d'installer des centrifugeuses, au détriment du bien-être, de l'enseignement, de l'hospitalisation, des infrastructures, des régimes autoritaires, eh bien, aiment ça et ils sont applaudis par leur clientèle, mais pas par l'ensemble du peuple. La preuve, c'est que quand les Iraniens ont eu à élire un réformateur, Khatami, en 1997, ils étaient à 20 millions pour élire ce réformateur qui n'a pas pu réformer parce que le régime est un régime de Wali al-Faqih, c'est-à-dire du représentant du prophète sur terre et qui détient tous les pouvoirs.
Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir été quelques minutes avec nous en direct et en duplex de Paris. Je rappelle, vous êtes politologue, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On a mis tout cela en lien sur notre site internet. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et Anne Brunswick, si vous êtes aussi toujours à Paris.
Oui, toujours là. Oui.
Vous nous écoutez. Demain...
J'aurais juste éventuellement un mot de commentaire à dire, parce que c'est vrai que les événements tels que je les ai vécus, les événements de Gaza tels que je les ai vécus à vue de Ramallah et de vue de Cisjordanie, ça ne ressemble vraiment pas à l'analyse de M. Basbous. Mais bon, voilà, il y avait une solidarité évidente avec ce qui se passait à Gaza et une envie d'unité nationale et pas du tout une envie de confrontation.
On se retrouve demain, Anne Brunswick, pour la suite de vos reportages à Naplouse. Deux mots sur le carnet de demain.
Alors, Naplouse est une ville très belle, c'est avec un centre historique absolument merveilleux, mais dans un état terrible parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements avec l'armée israélienne à Naplouse, notamment depuis 2002. Et puis alors, c'est une ville qui est complètement bouclée par les barrages militaires, donc pas simplement des barrages militaires qui la coupent d'Israël, mais aussi qui la coupent du reste de la Cisjordanie. Donc on ne peut pas entrer à Naplouse en voiture, il faut y entrer à pied, il faut passer par des filtres, enfin, c'est assez compliqué. Mais à l'intérieur de Naplouse, on a rencontré des jeunes gens merveilleux qui sont pleins de vie, et voilà, vous les rencontrerez demain.
Merci beaucoup Anne Brunswick. Je vous laisse avec Antoine Basbous pour continuer la discussion. Et je vous retrouve bien sûr demain. Merci à Alexandre Lemire à Paris, Isabelle Barthes ici en régie, Stéphanie Coudray, Nathalie Schoenberg, Dany Sulam et Monsieur T, ainsi que Emmanuel Villard pour le montage de vos carnets de route à Paris. Voilà Anne Brunswick, Cyril Desprats. Il va être 16h au checkpoint de Kalandia en Cisjordanie, 15h sur la première.